France Bleu, RCFM. France
Bleu. RCFM, Christina Loudzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts. Il est 9h30. Aujourd'hui, nous allons parler vegan. Alors, est-ce que imposer un régime végétalien à son bébé est dangereux? Les laits végétaux comme le lait d'amande, le lait de soja ou le lait de riz peuvent-ils remplacer le lait de vache? L'alimentation vegan est-ce dangereux? Faut-il épargner les enfants? C'est notre sujet du jour.
Les experts, 9h30, 10h30, Christina Loudzi.
Ni viande, ni œuf, ni lait. Pour des raisons éthiques, les adeptes du végétalisme se privent de tout produit provenant du règne animal, s'exposant ainsi à des carences alimentaires en l'absence d'alimentation adaptée et de supplémentation en vitamine B12. Alimentation végane, faut-il épargner nos enfants? Je vous invite à nous appeler au 04 95 32 22 22. Carole vous accueille au standard. Si vous voulez témoigner, poser des questions à notre invité, à notre expert du jour. Et quel expert? J'accueille le professeur Patrick Tognon. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Alors vous êtes professeur de pédiatrie, chef du service de nutrition et de gastro-entérologie au pédiatre de l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Vous êtes docteur en sciences et vous dirigez les formations obésité de l'enfant et de l'adolescent et nutrition de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie de Paris. Vous avez également publié de nombreuses publications scientifiques sur la nutrition et l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Alors professeur, aujourd'hui je disais on va parler alimentation vegan. Alors afin de bien planter le sujet, je pense qu'il est nécessaire de faire déjà le distinguo entre véganisme, végétalisme et végétarisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces différences, professeur?
Tout à fait, il faut bien distinguer. Alors le végétalisme, on va commencer par le végétarisme plutôt. Le végétarisme consiste à retirer certains produits d'origine animale. Ça peut être c'est essentiellement les viandes et souvent les végétariens continuent à consommer soit du produit laitier, voire du poisson et des œufs. Ces régimes-là ont moins de risques de carence. Et le végétalisme, donc avec un L, cette fois, exclut tout produit d'origine animale, que ce soit les viandes, les poissons, les produits laitiers, l'œuf et même le miel. Et tout à l'heure, vous parliez de véganisme. Le véganisme, cette fois, c'est une façon de vivre qui non seulement inclut le végétalisme, c'est-à-dire une exclusion de tous les produits d'origine animale, mais aussi l'exclusion de tout ce qui provient d'exploitation animale.
Voilà, tout ce qui est même testé sur les animaux, les pulls, les sacs en cuir, les pulls en laine, voilà, ça c'est vraiment du véganisme.
Exactement. La soie, mais aussi tous les produits cosmétiques, par exemple, qui sont testés sur des animaux. Donc c'est une philosophie, une façon de vivre, et toutes les philosophies et toutes les façons de vivre sont respectables.
Bien sûr, on n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit, on est vraiment là, on est sur du factuel. Hein. Alors, aujourd'hui, on peut dire, c'est communément admis, que chez un adulte en bonne santé, un régime végétarien bien conduit, ne présente aucun risque, voire qu'il pourrait même être bénéfique à la santé cardiovasculaire. Est-ce qu'il en est de même pour le végétalisme?
Alors, non, je vais parler surtout de l'enfant, parce que je suis pédiatre, vous l'avez signalé. Chez l'adulte, juste quelques mots quand même, puisque c'est la question que vous me posez.
Parce qu'on va venir à l'enfant tout de suite, mais...
Il a été décrit des carences, notamment en fer chez les femmes. Il a été décrit des carences en calcium, avec une publication récente qui a démontré que les végétaliens adultes avaient beaucoup plus de risques de fractures osseuses, contrairement aux végétariens, où le risque n'est pas, comme on dit dans notre jargon, significativement augmenté. Il est très légèrement augmenté, mais on ne peut pas dire que ce soit formel. Donc il y a des carences, et d'ailleurs tous les végétaliens adultes ont des compléments alimentaires, notamment un complément en vitamine B12, qui est une vitamine qui n'existe que dans le monde animal, à une exception près, c'est qu'on en trouve aussi dans certaines algues, même si malheureusement certaines algues ont une vitamine B12 qui n'est pas aussi efficace, voire pas du tout efficace, comme la vraie vitamine B12.
D'accord. Alors, depuis que l'homme est homme, il a toujours dû adapter son alimentation, je dirais, en fonction des possibilités qui s'offraient à lui aujourd'hui. Donc, certains ont dû consommer exclusivement des animaux, d'autres des produits végétaux. Aujourd'hui, en Occident, on a de la chance d'avoir autant de produits animaux que végétaux à notre disposition. Alors, la question du végétalisme peut être interprétée, je dirais, comme une doctrine ou bien comme un régime alimentaire aujourd'hui ?
je la place plutôt dans une doctrine philosophie. Les principales motivations sont d'une part, avant tout bien évidemment, la protection animale. Ce sont des gens qui ne veulent absolument pas qu'on fasse de mal aux animaux, y compris aux insectes. Et il y a aussi certaines autres considérations environnementales, on en parle beaucoup, mais aussi peut-être des considérations de peur. On parle beaucoup des risques de la viande, notamment chez l'adulte, et tout ça réuni fait qu'on a une augmentation assez considérable du végétalisme depuis ces dernières années.
Alors, merci professeur. En faisant les recherches pour préparer cette émission ô combien intéressante, j'ai lu quelque part que les parents pouvaient faire mesurer le microbiote de leur enfant auprès d'un gastro-entérologue avec un test respiratoire qui allait permettre d'identifier si sa flore intestinale était saine ou pathogène, et dans le cas où elle était mauvaise, lui faire suivre un régime alimentaire le rendrait encore plus vulnérable. Est-ce que ça suffit de faire mesurer sa microbiote par un gastro pour savoir si notre enfant peut être végétalien ou pas?
Alors, je vous remercie de me poser cette question parce que ça va me permettre de revenir sur ce fameux microbiote, la flore intestinale, qui est une piste de recherche formidable. On va découvrir dans les années qui viennent des choses exceptionnelles autour de ça. Aujourd'hui, soyons clairs, on ne sait quasiment rien. Et tout ce qui se fait autour du microbiote intestinal, notamment ce que vous décrivez qui doit être payant, est peut-être considéré comme quelque chose d'absolument pas scientifiquement établi. Donc, il y a sûrement un commerce derrière ça, mais je réfute complètement ce que vous venez de me dire, c'est absolument pas scientifiquement établi. Et il ne faut surtout pas faire ça, ça n'a absolument aucun sens.
Voilà, donc c'était important de le dire. Alors, il y a un élément essentiel, manque de fait aux végétaliens, vous le disiez, c'était la vitamine B12, qui n'est présente uniquement que dans les produits animaux. Qu'est-ce qu'une carence en vitamine B12 peut avoir comme conséquence?
Déjà, on a une réserve en vitamine B12 qui est très importante, comme toutes les vitamines d'ailleurs. Enfin, la plupart des vitamines, on peut tenir quasiment 2-3 ans sans avoir de vitamine B12. C'est pour ça que c'est une carence qui vient tardivement.
D'accord.
Mais lorsqu'elle arrive, elle intervient sur deux domaines essentiels. Tout d'abord, sur les globules rouges qui sont beaucoup moins bien fabriqués, parfois aussi les globules blancs, parfois les plaquettes, mais on a donc une anémie, une diminution des globules rouges, mais surtout une altération du fonctionnement cérébral. Et c'est peut-être ça qui est le plus grave, notamment en pédiatrie, l'enfant que j'ai vu carencé en vitamine B12 avait une régression psychomotrice, c'est-à-dire que des enfants de 1 an, par exemple, revenaient comme s'ils n'avaient plus que 3-4 mois, ils ne tenaient plus la tête, ils ne tenaient plus assis, avec des séquelles lourdes, plus ou moins lourdes. Et chez le plus grand, ça donne ce qu'on appelle une sclérose combinée de la moelle. Alors c'est compliqué, ça se traduit tout simplement par une paraplégie, c'est-à-dire qu'on est paralysé carrément des deux membres inférieurs. Ça peut être régressif, mais ça peut aussi ne pas l'être et laisser des séquelles. Donc les conséquences de la carence en vitamine B12, au niveau de l'anémie, ça peut être attrapable. Au niveau neurologique, ça peut laisser des séquelles très très lourdes. Et donc c'est particulièrement grave d'avoir une carence en vitamine B12, surtout chez le petit.
Et donc justement, les véganes prennent des compléments alimentaires pour pallier à ces éventuelles carences. Qu'est-ce que vous en pensez de ces compléments alimentaires? Est-ce qu'ils peuvent pallier à ces carences justement?
Alors déjà, c'est indispensable que les véganes prennent des compléments alimentaires. Donc il faut qu'ils continuent. D'ailleurs, la plupart des sites véganes recommandent la prise de compléments alimentaires. Malheureusement, certains compléments alimentaires, on parlait beaucoup de commerce tout à l'heure, notamment en vitamine B12, sont constitués d'une vitamine B12 qui n'est pas très efficace. Ça, c'est le premier point. Donc il faut faire attention et se faire surveiller par un médecin qui va doser la vitamine B12 pour être sûr qu'il n'y a pas de carence. Autre point, j'ai eu dans mon service, il y a quelques mois, un enfant qui est arrivé, un jeune enfant, j'en parlais tout à l'heure, avec une régression psychomotrice, c'est-à-dire qu'il ne tenait plus la tête, il tenait plus, donc il avait un problème neurologique. Sa mère était végétalienne et l'alimentait au sein. Donc lui, il y avait une carence majeure en vitamine B12. On s'est donc dit que la maman avait aussi une carence en vitamine B12. Nous avons dosé la vitamine B12 chez la maman, elle était normale. La maman prenait des compléments alimentaires. Et donc, on en a déduit que ces compléments alimentaires, qui ne sont pas de la vraie vitamine B12, lui suffisaient à elle, mais c'était une vitamine B12 qui ne passait pas dans son lait. Voilà. Et c'est pour ça que l'enfant qu'elle allaitait était très très carencé. Donc, chez les mamans qui allaitent, il faut surveiller le taux de vitamine B12 chez le bébé. Encore une fois, les conséquences d'une carence en vitamine B12 chez le tout petit sont dramatiques.
Alors justement, on va continuer à parler de ces carences et après on va venir au lait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc vous le disiez, hein, que le végétalisme expose également à des risques de carences en calcium, en zinc et en fer. Le fer est bien sûr présent dans les végétaux, mais est-ce que le fer d'origine végétale est aussi bien absorbé par le corps que celui d'origine animale ?
Chez la plupart des individus, non. C'est pour ça que moi, dans mon expérience, la principale carence que je vois, je parle plus des végétaliens, là je parle des enfants qui ont une alimentation normale. La principale carence que je vois, c'est la carence en fer, de très très loin. Et la principale cause de cette carence en fer, chez le tout petit, c'est la non-consommation de lait de croissance, et chez le plus grand, c'est une consommation insuffisante de viande. Revenons aux végétaliens. La plupart des adolescents qui se mettent à devenir végétaliens vont très rapidement devenir carencés en fer. La carence en fer va se traduire par une fatigue et qu'ils vont attribuer à juste titre au végétalisme. Ils vont donc reprendre au bout de 2, 3, 4 mois un régime normal. Mais certains authentiques végétaliens qui ne mangent jamais de viande, jamais de produits d'origine animale, ne sont pas carencés en fer. C'est cela qui arrive à tenir le végétalisme et à devenir végétalien pendant des mois, des années.
Je vous laisse finir.
Il est probable, je suis en train de le démontrer, mais je ne l'ai pas encore démontré, mais je ne vois pas d'autre solution, que ces personnes qui arrivent à rester végétaliens pendant des années absorbent anormalement le fer végétal. C'est-à-dire que le fer végétal est très peu absorbé, mais certains individus doivent l'absorber mieux que les autres. Ce qui fait que en consommant des produits végétaux riches en fer, il y en a pas mal, notamment les légumineuses, les épinards, eh bien, ils arrivent à absorber suffisamment de fer pour ne pas être carencés. C'est pour ça que on entend beaucoup, mais moi je suis végétalien depuis des années, je suis pas carencé en fer. Mais il faut savoir que la majorité des adolescents qui se mettent au régime végétalien, ils sont de plus en plus nombreux, abandonnent parce qu'au bout de 2, 3, 4 mois, et moi j'en vois régulièrement en consultation, ils sont carencés en fer, ça se traduit par une fatigue, et donc ils reprennent un régime normal.
Normal.
Donc, vous parliez juste. Il ne faut pas généraliser cette particularité de certains végétaliens à pouvoir ne pas être carencés en fer sans manger de viande.
Oui, parce que de toute façon, on sait qu'on n'est pas tous égaux. Hein. Moi, par exemple, je peux prendre du fer, et si je bois du thé, j'ai dessus la tête qui tourne, parce que voilà. Donc, mais on est tous différents, bien sûr. Mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les légumineuses. C'est vrai, mais il faut aussi bien penser à les associer avec d'autres produits. Et c'est des associations qui s'improvisent pas. J'ai envie de dire, je pense notamment au soja. Il ne se suffit pas lui-même.
Alors,
il manque des acides aminés.
Vous avez raison, les légumineuses, le soja est une légumineuse. Les légumineuses sont riches en fer, comme les épinards d'ailleurs, mais c'est un fer qui est très mal absorbé. Et l'absorption est améliorée par de l'acide, notamment la vitamine C, qui est l'acide ascorbique, et qu'on trouve notamment dans l'orange et le citron. Donc, lorsqu'on ajoute un peu d'orange, un peu de citron, ce qui est peut-être pas très simple, dans les lentilles, dans les épinards, on peut doubler l'absorption du fer. En plus, lorsqu'on est carencé en fer, mais il faut l'être, on peut tripler l'absorption du fer. Donc, au total, quelqu'un qui est carencé en fer des végétaliens, parce qu'il n'a pas assez d'apport en fer, et qui en plus ajoute du citron, peuvent quadrupler l'absorption du fer. Mais comme l'absorption du fer est de 2-3%, vous voyez, même en quadruplant, c'est-à-dire au maximum,
ça fait pas grand-chose.
À 8-10%, la viande, c'est 20-30%. Et puis surtout, il faut en consommer quand même des grosses quantités. Il ne faut pas oublier que les végétaux, c'est avant tout de l'eau.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je rappelle, on parle alimentation végane. Est-ce qu'il faut épargner les jeunes enfants? C'est notre sujet du jour. N'hésitez pas à réagir, à nous appeler au 04 95 32 22 22 ou à me faire passer vos questions sur nos réseaux sociaux, France Bleu RCFM. Et notre expert vous répondra en direct. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Hai un teso, una chiama in speranza, chi mi parla, ho un qui limosoni, a giavoli fa campà libertà, chi ognuno tiene in asa mente.
amarinda scrivimo la nostra storia ci porterà su vento che accarezza un mondo e che apre tanti orizzonti.
Incantesimo, Dili de Bassi sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Et oui, on parle alimentation végane aujourd'hui. Faut-il épargner les enfants avec notre expert du jour, le professeur Patrick Tougnon, professeur de pédiatrie, chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique de l'hôpital Armand Trousseau à Paris. On a une question, auditeur Christophe, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une question ou vous voulez témoigner?
Non, alors moi je voulais déjà vous saluer, bonjour.
Bonjour.
Professeur, j'ai son nom, je suis désolé.
C'est professeur Tougnon. Bon,
professeur, oui. Donc écoutez, moi là, je ne suis pas du tout vegan, bon, je suis un gros consommateur de viande, donc je suis plutôt l'inverse du vegan, mais la question qui l'interrogation que j'ai, c'est l'observation que j'en fais au quotidien. Mmh. Il me semble que l'homme, c'est un des seuls mammifères à consommer des laitages toute sa vie. Quand on observe l'espèce animale, bon, il y a les mammifères et les omnivores, mais on a des mammifères qui ne consomment que des végétaux, et apparemment, d'après les observations que j'ai eues, n'ont jamais aucune carence. Hein. Je comprends pas pourquoi les hommes, les êtres humains ont des carences en consommant que des produits végétaux.
Alors, je ne sais pas si on est tous constitués de la même manière, mais c'est le professeur qui va vous répondre. Professeur ?
Alors, c'est une question qui revient effectivement souvent. On me dit, regardez les vaches, elles ont un squelette qui est bien sûr beaucoup plus important qu'un être humain. Et pourtant, elle ne consomme pas de viande. D'abord, monsieur, regardez les quantités que consomme une vache. Elles ont besoin de consommer des quantités absolument phénoménales. Et effectivement, nous aussi. Si par exemple, on consommait 1 ou 2 kilos d'épinards par jour, on n'aurait absolument pas besoin de consommer de viande. Vous avouerez que c'est assez utopique. Deuxièmement, vous dites qu'on est la seule espèce à consommer du lait, mais on est aussi une espèce, on va dire animal, l'être humain, qui vivons particulièrement longtemps. Et 80 ans, il y a peu d'espèces animales qui vivent aussi longtemps. Et le problème du calcium, notamment qui provient du lait, eh bien les conséquences d'une carence en calcium, notamment durant l'enfance, peuvent s'exprimer à 60, 70, 80 ans. Donc plusieurs décennies plus tard. Et c'est pour ça que l'être humain s'est mis à consommer beaucoup plus de calcium que les espèces animales dont on parle, puisque c'est pas la même chose. Donc c'est pareil, on me dit un éléphant, c'est énorme, et pourtant ça consomme 200 kilos d'air par jour. Alors même si vous rapportez à son poids et à l'être humain, on arrive quand même à des quantités phénoménales. Donc c'est une argumentation que j'entends souvent, et on pourrait répondre oui, à condition de consommer des quantités phénoménales de végétaux, et à ce moment-là, vous avez raison, ça ne pose absolument aucun problème. Mais vous avouerez notamment chez l'enfant, l'adolescent, que ça paraît assez utopique de leur demander de consommer des quantités phénoménales de végétaux et que le plus simple, ça reste quand même de consommer de la viande et des produits, des produits laitiers pour assurer les besoins en calcium.
Non, moi, c'était une professeure, vous ne me prenez pas, c'était vraiment une question. C'est sûr que dans la société dans laquelle on vit, il est plus facile de faire avaler une barre un chocolaté ou des céréales ou d'autres produits que de faire manger un kilo d'épinards.
Ou deux.
Tout à fait vrai. Mais il y a des légumineuses, il y a des légumes secs, il y a des fruits secs, il y a des fruits frais. Peut-être que si aujourd'hui il y a un problème chez les véganes, c'est parce que justement ils n'ont pas un menu correct. Mais voilà, c'était la question que je me posais. Est-ce qu'un végane, s'il se nourrissait en quantité, c'est-à-dire 500 grammes de lentilles le matin avec 250 grammes d'épinards frais, bien sûr les fruits et légumes, il faut qu'ils soient crus parce que s'ils sont cuits, automatiquement ils perdent beaucoup en vitamines. Les vitamines, je crois savoir qu'à partir d'une certaine température, elles sont détruites. Bon, après, moi, personnellement, je mange 500 grammes de viande rouge tous les jours. Hein. Je ne fais pas du tout le travail inverse. Attention, hein. Voilà. C'était tout.
Non, mais c'est...
Donc, s'il mangeait 500 grammes de lentilles, etc., il pourrait s'en sortir, excepté pour la vitamine B12, il pourrait s'en sortir pour le fer, il en faudrait donc des quantités phénoménales. Pour le calcium, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faudrait qu'il mange plutôt des épinards, du brocoli, du chou. C'est quand même assez compliqué, et je suis pédiatre, donc au niveau adolescent et enfant, ça devient totalement utopique. Et puis surtout, les études montrent que les véganes ont plus de risques de fractures, parce que certains ne doivent pas parvenir à manger ce que vous préconisez et qui pourraient, comme vous le dites, tout à fait assurer les besoins et en fer et en calcium.
Pardon Christophe, on ne vous entendait pas ?
Non, je dis, moi je ne préconise rien, ce sont des questions.
Non, bien sûr, mais on les prend comme telles.
Bon, ce sont des questions, hein, le professeur dit que je préconise. Non, pas du tout, moi je questionne, parce que moi personnellement, je répète, c'est... quantité de viande rouge.
Vous êtes un viandard. Vous avez bien raison.
Carnadio. Merci beaucoup Christophe pour cette intervention.
Merci Christophe.
Alors nous, on va poursuivre notre discussion, mais d'abord on va faire un point sur la météo et sur l'actualité et on se retrouve tout de suite après pour parler alimentation végane. Est-ce que oui ou non il faut épargner nos enfants ?
Sonnato un terra su Oh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant?
Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers. Optique 2000! Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Moi, je suis moi-même au fil, je fais tout moi-même. Les fleurs, c'est moi. Ah, j'ai la main verte, ça pousse, ça pousse. Bon, la dernière fois, on voyait même plus la maison. Hein. Il m'a fallu 3 heures pour la retrouver. Non, le jardin, c'est moi. Et Gamme Vert.
Eh oui, produire soi-même avec Gamme Vert, ça change tout. Retrouvez chez Gamme Vert tout ce qu'il faut pour vous occuper de votre jardin.
Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie.
L'Office de l'environnement de la Corse vous informe. L'emploi du feu est strictement interdit jusqu'au 30 septembre. L'uso di uvogu è proibito sino al 30 di settembre.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Un coup d'œil du côté du ciel, la journée est baignée de soleil. Vent de secteur nord-est, généralement modéré. Température maximale de 27 à 30 degrés et 22 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, avec un meurtre ce matin à Cardiez. Le corps d'un homme de 36 ans, militant nationaliste connu dans la région, a été retrouvé sur la plage de Peyre, non loin d'une paillote, à proximité de la route direction Piane. Un véhicule a été incendié non loin des faits. Il pourrait être celui utilisé par le ou les auteurs du crime qui s'est produit vers 8h10. Selon AFP, la victime, Maxime Souzigny, âgé de 36 ans, était connu pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement ADN et pour, il y a une dizaine d'années, avoir participé à une action à l'hôtel de région qui s'était soldée à l'époque par l'incendie du bureau du président de l'exécutif. Aucune piste n'est privilégiée à l'heure actuelle, selon la justice. Jacqueline Gourault balaie la proposition de Jean-Guy Talamogne, le président de l'Assemblée, de surtaxer les résidences secondaires des non-Corses pour lutter contre le problème du logement sur l'île. Nous sommes en République, il y a l'égalité dans l'impôt, assène la ministre de la Cohésion des Territoires, reconnaissant que le problème du logement en Corse est cependant un vrai sujet et rappelant qu'un groupe de travail a été mis en place avec des élus locaux. Un cas de harcèlement présumé au collège de Bonifacio. Une plainte a été déposée à la gendarmerie par un couple dont l'enfant serait victime de harcèlement scolaire. Âgé de 13 ans, l'adolescent aurait été la cible de moqueries, d'injures et de bousculades en raison de ses origines et de son embonpoint. En début de semaine, les choses se seraient aggravées avec une photo du jeune homme qui circulait sur les réseaux sociaux. Le père a déposé plainte. De son côté, la rectrice de Corse a fait savoir dans un communiqué qu'une enquête administrative avait été diligentée. La CGT de l'hôpital de Bastia appelle à une grève générale de tous les services, pas seulement les urgences. Les dernières annonces de la ministre de la Santé n'ont pas permis d'apaiser la colère des personnels. Le syndicat appelait à un rassemblement hier dans le hall de l'hôpital de Falconadje et parle maintenant d'un élargissement du mouvement. Ne rien faire, c'est signer notre arrêt de mort, lance la CGT. Par ailleurs, les assistants de régulation du SAMU de Haute-Corse, ceux qui répondent aux appels d'urgence, ont déposé un préavis de grève pour demain. Ils s'allient à un mouvement national pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Ils ont aussi déposé un préavis plus local face à l'absence de nouveaux locaux et de personnel supplémentaire.
Merci Didier, on se retrouve à 11h.
Mamie, tu veux voir mon beau dessin ?
Oui, j'aimerais bien, mais là, il faut que tu me passes mes lunettes.
Mieux voir, c'est important, comme mieux entendre, mieux sourire aussi. Et c'est pour ça que Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale, va pour vous plus loin. Optique, audition, dentaire, avec sa garantie santé Protec Via. Ses services et tous ses ateliers prévention, Via Santé fait toujours mieux pour votre santé. Et en plus, en ce moment, pour toute nouvelle adhésion, 3 mois offerts sur votre garantie santé, selon conditions.
Plus d'informations sur viasanté.fr.
L'autonomie énergétique de la Corse en 2050, c'est possible en misant sur les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Entreprises, collectivités, associations, l'AUE et l'ADEME s'engagent en soutenant vos projets innovants et exemplaires.
Ensemble, construisons la Corse de demain. On énergie appel à Bane.
Retrouvez les appels à projets bois énergie, rénovation énergétique des bâtiments, éclairage public, solaire thermique et études petite hydroélectricité sur le site aue.corsica.
La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
France Bleu, RCFM.
RCFM, Christine Alloudi, les experts.
Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle ce matin alimentation végane, du sac en cuir au pull en laine en passant par des produits de maquillage testés sur l'animal. Le véganisme est un mode de vie qui rejette tous les produits de consommation issus de l'exploitation animale. L'objectif, exclure autant que possible toute activité faisant souffrir les animaux et cela afin d'avoir un impact négatif le plus faible possible sur autrui, indique sur son site internet l'association de défense des animaux L214. Alors l'alimentation fait évidemment l'objet de nombreuses restrictions, puisque tous les aliments d'origine animale sont exclus. Une question se pose alors, est-il possible de suivre un tel régime sans souffrir de carences nutritionnelles? Et est-ce que l'on peut faire suivre un régime végétalien à son bébé? C'est la question que nous abordons aujourd'hui.
RCFM, les experts, 04 95 32 22 22.
Je vous rappelle que nous sommes en direct, hein, n'hésitez pas à nous faire passez vos questions sur le réseau social France Bleu RCFM ou à nous appeler au 04 95 32 22 22 pour répondre à toutes vos questions. Je suis toujours en compagnie du professeur Patrick Tounion qui est, je vous le rappelle, chef de pédiatrie du service nutrition et gastro-entérologie de l'hôpital Trousseau à Paris. Alors professeur, on avait un auditeur qui nous parlait du lait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le lait ça fait débat. Si les végétariens renoncent seulement à tout ce qui est animal, les végétaliens, eux, on consomme que du végétal. Soja, amandes, noisettes, est-ce que les jus végétaux, appelés à tort lait, qui sont très prisés hein, par les véganes, peuvent remplacer le lait de vache?
Alors ça, c'est une question extrêmement importante parce que elle aboutit malheureusement à des très graves conséquences chez le nourrisson. Un nourrisson doit être allaité. C'est la meilleure façon d'alimenter un nourrisson, donc allaité par sa maman. Si la maman ne veut pas, ne veut plus ou ne peut pas allaiter, dans ce cas-là, la seule solution, c'est d'utiliser une préparation infantile dont la composition est régie par la réglementation européenne. Il y a aujourd'hui sur le marché des préparations infantiles qui sont essentiellement à base de lait de vache. Il y en a quelques-unes à base de lait de chèvre. Et heureusement, il y en a à base de riz. Et ce sont ces préparations infantiles-là qu'il faut donner à ces nourrissons. Comme ça, tout le monde est content. L'enfant, parce qu'il ne va pas avoir de carence. Le docteur, parce qu'il va sauver l'enfant. Et puis surtout les parents, puisqu'il va pouvoir donner une alimentation végétalienne à son enfant. Mais surtout, ne pas utiliser ces fameux jus végétaux que vous avez cités, ces boissons végétales, soja, noisettes, amandes, etc., dont la composition est absolument pas adaptée aux nourrissons et qui aboutit à des carences absolument majeures en fer, en vitamine B12, en calcium, avec des conséquences dramatiques. Nous avons colligé et publié l'an passé plusieurs dizaines de cas d'enfants nourris avec ces boissons végétales et avec des conséquences absolument dramatiques qui peuvent même conduire au décès. Donc, par pitié, si les parents veulent une alimentation végétalienne pour leur enfant, qu'ils utilisent les préparations infantiles à base de riz, qui sont des préparations végétaliennes, mais surtout pas ces jus végétaux.
Oui, on se rappelle, hein, l'année dernière, dans la Drôme, une petite fille hein, qui était exclusivement nourrie au lait de châtaigne, qui était carrément décédée, quoi.
Absolument. C'est... Donc, voilà, c'est extrêmement grave.
Est-ce qu'on peut considérer ça de la maltraitance nutritionnelle, quelque part?
La maltraitance, c'est souvent des parents qui le font volontairement. Là, je pense que quand on explique aux parents le risque qu'ils prennent pour leur enfant, ils changent d'avis.
Ils changent d'avis. C'est quelque chose que vous pouvez constater dans votre service quand vous expliquez aux parents de dire attention, si vous donnez du lait de soja ou du lait d'amande, du lait de noisette, qui n'est pas du lait, hein, qui est une boisson végétale à votre enfant, vous le mettez en danger, ça change, les choses changent.
Pas tout le temps, pour être honnête. La plupart, on a réussi à les convaincre. Certains ne sont pas convaincus parce que malheureusement, et c'est ceux-là qui sont maltraitants, il y a quelques gourous, parfois qui se revendiquent d'être professionnels de santé, qui, eux, leur disent « n'écoutez pas, ceux-là, ils ont des conflits d'intérêts, ceux-là, ils disent n'importe quoi, moi, je vous dis, professionnel de santé qu'on peut donner ces jus végétaux. Et s'il y a une maltraitance dans cette histoire, ce sont tous ces gourous qui incitent les mamans, les papas à utiliser ces jus végétaux. Je ne crois pas à un instant qu'une maman ou un papa accepterait de mettre en danger la vie de son enfant. Donc c'est pour ça que je ne peux pas directement parler de maltraitance, parce que la maltraitance s'exerce lorsque les parents volontairement font du mal à leur enfant.
Oui, ils sont conscients de la chose.
Voilà, ils ne sont pas volontaires. On les convainc que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est là où il faut agir, c'est-à-dire sur les gourous qui les incitent à avoir ces comportements dramatiques.
Oui, justement, je pense que toutes ces boissons végétales devraient faire l'objet d'un signalement ou du moins qu'il soit indiqué sur ces boîtes que ce n'est pas adapté à un nourrisson.
Vous avez totalement raison. Enfin, on essaye d'insister auprès de ça. Notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a juste avant les vacances pris position et sur BFM TV, je crois.
Oui, c'est ça.
Il ne fallait surtout pas donner de boissons végétales à ses nourrissons. Et je suis très content qu'elle ait fait ça. Et j'aimerais vraiment que ça continue dans ce sens-là et ça aille dans le sens que vous préconisez, c'est-à-dire de marquer sur les boîtes de ces boissons végétales que ça ne convient pas aux nourrissons, que c'est dangereux, comme un peu un paquet de cigarettes.
Oui, c'est ça. Après.
Où on marque c'est dangereux pour la santé et j'allais dire c'est presque aussi dangereux pour les nourrissons que le
oui, quand on voit l'issue qu'on peut avoir, effectivement, c'est assez dangereux. Et vous disiez que donc vous arriviez à convaincre, entre guillemets, certains parents à les faire revenir à la raison pour leurs enfants. Est-ce que les parents qui seraient réticents, entre guillemets, et qui donc mettraient leur enfant en danger, est-ce qu'ils font l'objet d'un signalement, comme peuvent l'être des parents maltraitants, en fait ?
Ça aussi, c'est une question extrêmement importante. Moi, ma façon de voir les choses, c'est d'essayer d'abord de négocier avec les parents.
Oh, bien sûr, bien sûr.
Et la plupart des parents qui sont venus dans mon service, on a réussi à les convaincre. Donc, surtout pas de signalement d'emblée, parce qu'on perd le contact, c'est la justice qui s'en mêle, et là, ça peut devenir dramatique, parce qu'ils n'ont pas la même expérience que nous.
Bien sûr.
Donc, si on arrive à convaincre les parents, absolument aucune procédure judiciaire. En revanche, si bien sûr les parents disent « Non, moi je suis sûr que c'est ce qu'il faut, vous, je ne vous crois pas, je crois mon gourou », là, l'enfant est en danger. Et notre devoir de médecin, c'est bien sûr de signaler au procureur de la République que cet enfant est en danger de mort, potentiellement.
Oui, c'est ça.
Et c'est à la justice de faire son travail et qui peut aboutir jusqu'à l'OPP, c'est-à-dire l'ordonnance de placement provisoire, c'est-à-dire qu'on retire l'autorité parentale et on place l'enfant à l'aide sociale à l'enfant. C'est arrivé dans le service, d'ailleurs, dans le service, c'était à tort, parce que les parents, on avait réussi à les convaincre. Donc, voilà, la plupart du temps,
non,
on ne fait pas intervenir la justice, mais quand les parents mettent réellement en danger leur enfant parce qu'ils ne nous écoutent pas, notre devoir de médecin, c'est bien sûr de signaler au procureur de la République.
Dans l'intérêt de l'enfant, bien entendu. On a une question, auditeur.
RCFM, les experts, 04 95 32 22 22.
Cathy, bonjour.
Oui, bonjour. En fait, je voulais juste vous faire part de ma propre expérience. Si cela peut aider des jeunes mamans en plein questionnement. Voilà, moi j'ai 3 enfants et j'ai respecté les étapes alimentaires, point par point, en leur donnant de tout, des légumineuses, viande, poisson, laitage, et etc. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ce sont des beaux gaillards, ni obèses, ni filiformes, sans carence. Donc moi, ce que j'en retiens du vegan, c'est que c'est plus pour fournir des carences que le bon développement de l'enfant. Parce que j'ai suivi mes enfants par le biais des analyses, tout comme les mamans le font. Hein. Je n'ai rien fait de spécial. Et mes enfants n'ont jamais été en carence. Donc moi, je prône plutôt pour l'alimentaire, en respectant bien évidemment les étapes de l'âge de l'enfant.
Voilà ce que je voulais. Voilà.
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Hein. Non, mais on abordait ce sujet ce matin puisque voilà, c'est en France aujourd'hui 4%, hein, selon une étude, 4% des Français se disent véganes. Et c'est vrai qu'en faisant des recherches, j'ai vu que ça pouvait être dramatique pour les enfants. Et je voulais justement donner la parole à des gens qui peuvent dire, voilà, un professeur qui peut dire vraiment ce qu'il en est. Et on est très content de l'avoir ce matin. Merci beaucoup, Cathy, pour votre témoignage.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir, Cathy.
Alors, on sait hein, que les 12 premiers mois de la vie sont cruciaux pour la croissance osseuse et cérébrale de l'enfant, puisque l'enfant grandit de manière spectaculaire, multipliant par 3 son poids et par 2 sa taille. Est-ce que ces boissons végétales possèdent les lipides, l'énergie, les protéines et le calcium nécessaires à un développement harmonieux? Je parle même plus tard, hein, pas sur un nourrisson. Hein.
Alors, certaines boissons de soja, à base de soja, sont enrichies en calcium, à la même concentration que le lait, avec un calcium qui est un peu moins bien absorbé du fait de la présence de soja. Mais la plupart de ces boissons végétales ne contiennent que peu ou pas du tout de calcium. Je pense qu'il faut considérer chez le plus grand, puisque c'est la question que vous me posez, ces boissons végétales comme une boisson plaisir, comme un soda par exemple, mais absolument pas comme du lait.
Comme du lait.
Encore une fois, certaines boissons à base de soja enrichies en calcium à 120 mg par litre comme le lait.
Jusqu'à quel âge ces boissons végétales sont à proscrire, docteur ?
Tant que l'enfant doit consommer des laits infantiles, donc dans la première année, c'est une évidence. Ensuite, il faut, et c'est une recommandation de la Société française de pédiatrie, continuer le lait de croissance pendant jusqu'à 3 à 6 ans. Et à partir de 1 an, si l'enfant prend un biberon de lait de croissance, par exemple le matin, après, s'il veut consommer des boissons végétales, pourquoi pas ? Encore une fois, ça peut être considéré comme un soda. Donc, une boisson plaisir.
Plaisir, oui.
Peut-être que les enfants prennent du plaisir en consommant ces boissons. Mais supposons, mais ça ne doit en aucun cas remplacer ni le lait premier âge, ni le lait deuxième âge, ni le lait de croissance, qui sont des étapes indispensables, comme parlait Cathy, des étapes indispensables pour la bonne croissance de l'enfant.
Merci, professeur. Alors, l'alimentation végane, est-ce que c'est dangereux ? Faut-il épargner nos enfants ? Vous pouvez témoigner, comme l'a fait Cathy, ou apporter vos réactions, poser vos questions au professeur Tounian au 04 95 32 22 22. Carole vous accueille au standard, ou sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, France Bleu RCFM. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Les Frangines, Donnez-moi, et on revient tout de suite pour toutes vos questions.
Parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voyage.
donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Ça sert à quoi? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi?
RCFM, les experts, du lundi au jeudi.
Imposer un régime végétalien à son bébé est-il dangereux? Les laits végétaux comme le lait d'amande, le lait de soja ou le lait de riz peuvent-ils remplacer le lait de vache? Alimentation végane, est-ce dangereux? Faut-il épargner les enfants? C'est notre sujet du jour. Si vous voulez témoigner ou apporter, poser votre question au professeur Tounian, vous pouvez nous joindre au 04 95 32 22 22. Alors on parlait avant de faire la pause du lait, des boissons végétales qui étaient à proscrire. Il y a aussi des laits non bovins qui sont prisés par les véganes, du moins par les moins stricts. Est-ce que le lait d'ânesse, le lait de chèvre ou le lait de brebis peut remplacer le lait de vache, docteur?
Alors, chez le tout petit, donc le nourrisson, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est très important, seules les préparations infantiles dans la composition obéies à la réglementation européenne peuvent être données. Ce soit à base de lait de vache essentiellement, parfois de lait de chèvre, et de riz, de protéines de riz. Mm-hmm. Donc ça, aucun lait d'autres mammifères que la femme ne peut être donné à un nourrisson. Ni le lait de vache pur, ni le lait de chèvre, ni le lait d'ânesse, ni le lait de jument, ni le lait de tout ce qu'on veut. Ça n'est pas adapté à l'enfant. Maintenant, si vous parlez des plus grands, qui n'ont plus de lait de croissance, ceux-là peuvent effectivement remplacer le lait de vache par du lait de chèvre. Chez le plus grand, les apports des produits laitiers sont basés sur le calcium. Mmh. Et il y a beaucoup de calcium, un peu moins que dans le lait de vache, mais il y a beaucoup de calcium dans le lait de chèvre, par exemple. Donc pourquoi pas remplacer chez le plus grand le lait de vache par le lait de chèvre. Mais je répète, chez le petit, on ne remplace ni le lait de premier âge, ni le lait de deuxième âge, ni le lait de croissance par le lait de n'importe quel mammifère. C'est rarement le lait de vache qu'on utilise, même si malheureusement ça se fait aussi. Mais par exemple, le lait de chèvre, le lait de jument, qui est particulièrement onéreux, n'est absolument pas adapté à l'enfant.
Voilà, donc hein, c'est très important. On insiste dessus, mais c'est quand même important hein, de le dire quand on voit les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Alors, il y a une chose qu'on entend beaucoup. Hein, moi, j'ai été confrontée de près. C'est l'allergie au lait. Alors aujourd'hui, quand un enfant, il s'adapte pas au lait qu'on lui donne et qu'on lui change 100 fois de lait, on dit il est allergique au lait. Il faut le passer au lait végétal. Est-ce que ces boissons, hein, je l'appelle ça boissons, hein, qui n'ont que le nom de lait, hein, puisque ce sont des boissons végétales, est-ce qu'elles sont préconisées en cas d'allergie au lait? Pas du tout.
Alors, déjà, vous avez été confronté, vous dites, il faut savoir que dans deux tiers des cas, les diagnostics d'allergie au lait qui sont portés n'en sont pas.
Bon alors, moi, pour être tout à fait honnête, le diagnostic a été porté par une pédiatre qui avait des tendances véganes, je pense, puisque en creusant un peu, elle avait orienté de nombreux enfants vers du lait végétal. Quand on voit les conséquences que ça peut avoir, c'est même dangereux. Et en fait, elle s'était tout juste pas aperçue que le petit garçon avait un torticolis congénital et que c'était pour ça qu'il ne pouvait pas avaler son lait, qu'il n'était pas du tout allergique au lait. Aujourd'hui, Dieu merci, il a une alimentation tout à fait normale et il boit du lait de croissance. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Mais donc du coup, les allergies qui sont diagnostiquées allergies au lait ne le sont pas pour les deux tiers.
Vous voyez, votre exemple est très intéressant puisque c'était un symptôme qui n'a absolument rien à voir, parce que je sais peut-être sur le torticolis qu'elle a porté ça, absolument rien à voir avec une allergie au lait. Et pourtant, la pédiatre porte le diagnostic d'allergie au lait. On a d'autres exemples comme ça. Donc soit c'est des diagnostics qui sont aberrants, soit on peut réellement suspecter, par exemple, un enfant qui a du sang dans les selles. C'est vraiment un vrai symptôme. Eh bien, on retire le sang disparaît. Un mois plus tard, il est indispensable de réintroduire le lait pour voir si c'était ou pas une allergie au lait. Et on vient de faire un travail sur une grosse série. Eh bien, deux tiers, j'ai bien dit deux tiers, c'est absolument énorme.
Ah oui.
Des enfants qui avaient du sang dans les selles, qui a guéri quand on a retiré le lait, Un mois plus tard, on réintroduit les dés, ils ne récidivent pas.
Et du coup, donc, ça pouvait venir de quoi
Alors, mon hypothèse, c'est que c'est une allergie au lait quand même, mais qui guérit très rapidement.
D'accord, donc c'est une petite intolérance temporaire, en fait.
Voilà. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas imposer des régimes sans lait prolongés inutilement chez ces enfants. Et l'autre question importante que vous avez posée, c'est par quoi les remplacer? Parce que l'allergie au lait existe, bien évidemment. Je vous ai dit 2/3 ne récidivaient pas, mais 1/3 récidivait, et le diagnostic était donc confirmé.
Justement, docteur, juste une question avant que vous poursuiviez là-dessus. Comment on diagnostique un enfant? Comment on diagnostique une allergie au lait chez un bébé? Parce qu'on ne peut pas faire des tests allergiques sur des bébés.
Alors, il y a deux types d'allergies. Il y a ce qu'on appelle l'allergie immédiate, c'est-à-dire des enfants qui, dans les minutes qui suivent l'ingestion du lait, ont des réactions. Par exemple, ils ont une urticaire, ils deviennent tout rouges, ils vomissent de manière incoercible, ou ils font un choc allergique, ou ils se mettent à avoir une crise d'asthme chez les plus grands. Donc, tout ça, ce sont des réactions immédiates qui sont faciles à diagnostiquer, et il y a des prises de sang qui permettent de confirmer, ou des tests cutanés. Même chez les bébés.
D'accord.
Par contre, il y a l'autre type, je vous en parlais un peu tout à l'heure, du sang dans les selles, un enfant qui pleure, un enfant qui a de l'eczéma. Donc là, c'est pas immédiat, c'est pas dangereux. Et cela, la seule façon de le confirmer, c'est on retire le lait, on voit si les symptômes qui ont fait évoquer le diagnostic disparaissent. Mm-hmm. Et s'ils disparaissent un mois plus tard, donc très rapidement, on réintroduit le lait. Et là, l'alternative suivante permet le diagnostic, soit les symptômes récidivent, et on a confirmé le diagnostic, soit les symptômes ne récidivent pas, et on a infirmé le diagnostic. Donc, dans le premier cas, dans les réactions immédiates, eh bien, c'est souvent évident, cliniquement, et en plus, on a des tests cutanés ou sanguins. Dans la deuxième situation, qui est la plus fréquente, eh bien, on n'a aucun autre test que de retirer le lait et de le réintroduire pour voir si l'allergie est confirmée ou infirmée.
D'accord.
Mais dans cette deuxième situation, aucun test n'est fiable, ni des prises de sang, ni les tests cutanés.
Voilà, donc du coup, si le premier cas se présente, par quoi vous préconisez de remplacer le lait de vache?
Alors, on a deux solutions. Il y a ce qu'on appelle les laits sans protéines du lait de vache, qui sont, pour utiliser un terme plus technique, des hydrolyses à pousser de protéines du lait de vache, c'est-à-dire qu'on a pris des protéines et on les a coupées pour qu'elles deviennent toutes petites et qu'elles ne soient plus allergisantes. Mmh. Donc, c'est à base de lait de vache au départ, mais avec des protéines toutes petites pour ne pas qu'elles soient allergisantes. Et on a toute une collection de lait disponible dans le commerce. Et puis l'autre solution, c'est d'utiliser des préparations infantiles à base de protéines de riz, comme je les ai préconisées tout à l'heure, pour les nourrissons dont les parents veulent qu'ils aient une alimentation végétalienne. Voilà les deux solutions que nous avons. Donc soit un hydrolysat, qui est toujours à base de lait de vache, mais avec des protéines qui sont moins allergisantes, soit des préparations infantiles à base de riz qu'on peut donner chez ses enfants. Mais jamais, au grand jamais, les boissons végétales dont la composition n'obéit pas à la réglementation européenne, c'est-à-dire les jus qu'on évoque depuis tout à l'heure, les jus de soja, les jus de noisette, les jus d'amande, etc., les jus de quinoa, j'ai vu ça.
Oui, quinoa.
Voilà, jamais.
je voudrais qu'on revienne justement, puisqu'on parle de lait, hein, à quoi doivent faire attention les femmes véganes qui allaitent? Puisque vous disiez tout à l'heure que la maman végane n'était pas carencée, mais que le bébé l'était, à quoi elles doivent vraiment faire attention?
D'abord, la vitamine B12, hein, l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, c'est-à-dire si elles prennent de la vitamine B12 en complément, et toutes les véganes doivent prendre de la vitamine B12 en complément, certaines vitamines B12 ne passent pas dans le lait, donc leur enfant risque d'être carencé. D'autant plus que peut-être qu'in utero, il n'a pas fait non plus son stock. Ensuite, il faut savoir que la nature est très bien faite, et que c'est la maman qui va être carencée, mais moins le bébé. C'est-à-dire que le bébé va puiser dans les réserves de la maman, notamment calcium, dans les réserves de l'os de la maman, en fer, dans les réserves de fer de la maman, et la maman, elle, va être carencée. Juste un point, un nutriment dont on n'a pas encore parlé, qui est le DHA, dans son nom technique.
Qui est très cher en plus.
Donc c'est un peu compliqué. C'est un acide gras, donc une graisse, absolument fondamentale pour la croissance du cerveau de l'enfant, et qu'on trouve principalement dans les produits de la mer, la cervelle d'agneau, mais bon, c'est pas beaucoup consommé.
Ouais.
Donc, les mamans véganes, qui ne consomment pas de poisson, ni de cervelle d'agneau, ont, et ça a été démontré, des taux de DHA extrêmement bas dans leur lait. Et donc, l'enfant peut être carencé. Et là, il y a une façon de manger du DHA, c'est de prendre des algues, C'est d'ailleurs là-dedans que les poissons se nourrissent, hein, pour avoir du DHA. Mm-hmm. Donc des algues onéreuses qu'on achète dans des magasins spécialisés. Et il faut que les mamans véganes consomment de grandes quantités de ces algues pour que leur lait contienne suffisamment de DHA pour permettre une bonne croissance cérébrale de leur enfant. Donc les mamans doivent être supplémentées en tout pour elles en fer, en calcium, en vitamine D, ça c'est pour elle, parce que l'enfant va se servir chez la maman, et pour l'enfant, une bonne vitamine B12 qui passe bien dans le lait, et des compléments d'algues pour avoir du DHA, de l'acide docosahexaénoïque.
Des compléments en algues, même pour les jeunes enfants ?
Alors, chez l'enfant allaité, c'est la maman qui doit en consommer pour que ça passe dans son lait.
Mmh.
Et puis chez les plus grands, qui ne consomment pas de poisson, oui, il faut des compléments à base d'algues marines qui sont, c'est des algues marines, comme toutes les algues, des algues marines qui contiennent du DHA et certaines des molécules qui ressemblent à la vitamine B12. Donc il faut en consommer suffisamment. C'est onéreux, hein. Il faut en consommer suffisamment pour que les apports soient convenables.
Écoutez, docteur, c'est déjà la fin de notre émission. On aurait tellement à dire. Bon, on refera des émissions avec vous tout au long de la saison. Merci
avec
beaucoup pour votre disponibilité, docteur, professeur. Bonne continuation. Alors, en conclusion, je dirais qu'en dehors de la vitamine B12 qui doit absolument être supplémentée, vous l'avez dit, il est possible d'avoir une alimentation équilibrée en ne consommant que des produits d'origine végétale quand on est un adulte et en bonne santé, hein, très important. Un constat qui s'applique en revanche pas aux femmes enceintes et allaitantes, ni aux enfants en cours de croissance, ni aux personnes malades ou âgées. Et il est bien sûr fortement recommandé, même je dirais indispensable, hein, de prendre conseil auprès d'un médecin nutritionniste ou d'un diététicien avant de commencer un régime végétalien. Ça vous semble cohérent, docteur, comme conclusion ?
Ouais, c'est parfait. Bon, j'insisterai en tant que pédiatre, surtout sur les jeunes enfants et les adolescents. Vraiment, c'est pas du tout adapté à ces âges-là. Et il faut être réaliste, hein. Ces enfants ne peuvent pas prendre des grandes quantités de compléments ou ingurgiter des grandes quantités de végétaux.
Voilà, donc pensez vraiment à la santé de vos enfants et à plus tard, hein, puisqu'on sait que les conséquences peuvent arriver bien plus tard. Merci. C'est la fin des experts. On se retrouve, nous, demain pour parler tatouage et des tatouages.
France Bleu RCFM.